Je m'appelle Aminata Traoré, je suis du Mali. Bon, disons que vu d'Afrique, il y a beaucoup plus de méfaits que de bienfaits. Et premièrement, c'est son aspect contraignant. Je pense que tout processus de changement économique, social et politique doit s'opérer avec le consentement des gens qui sont en situation. Et nous nous trouvons aujourd'hui dans une situation qui est celle d'un faux consensus. Et quelque part, il y a des gens qui ont et des institutions qui, au regard des progrès technologiques absolument époustouflants et de toutes les opportunités qu'il y a de rapprocher le monde, en tout cas de permettre la libre circulation des capitaux, des biens et services, ont décrété à partir de ces opportunités qui sont réelles que c'est l'ère de la globalisation et que le monde entier doit jouer ce jeu-là. Donc je pense que c'est une nouvelle forme de dictature. Et il se trouve que ceux qui l'ont décrété, sans demander l'avis des citoyens du monde, parce que pendant longtemps nous avons cru que c'est les peuples du tiers-monde qui sont soumis à ce rouleau compresseur, mais la fracture sociale, les conséquences des réformes institutionnelles et des fusions en Europe ont ouvert tellement de plaies que nous nous retrouvons tous aujourd'hui dans la même situation, qui est une situation de non-concertation par rapport à des transformations de fond qui changent tout sur la surface de la Terre. Donc je trouve qu'il y a une violation de nos droits les plus élémentaires. Ce n'a pas d'importance que ce soit une bonne chose et que la communication soit... On aurait pu de toute façon obtenir les mêmes résultats sans décréter que c'est la globalisation, il faut faire avec. Et c'est cette imposition qui pose problème. Et le coût, parce que si c'était seulement parce que d'aucuns l'ont décidé et qu'effectivement il en résultait et quelque chose de bénéfique pour l'humanité, on aurait dit tant mieux. Mais le problème, c'est que ce n'est pas le cas. Dans le cas des pays sud, qui ne sont pas du tout prêts, qui n'ont jamais eu le temps de décider pour eux-mêmes quand il s'est agi de l'industrialisation de leur pays, de la mise en œuvre de leurs ressources et même de nos choix politiques. Et tous les changements en Afrique en tout cas, sont assujettis et à la conformité de ce que nous voulons faire avec les points de vue des Européens et des nantis en général. Et le coût que nous payons aujourd'hui pour ces changements forcés est extrêmement élevé. Pendant près de 4 décennies, on nous a infligé des programmes d'ajustement structurel, soi-disant qu'il fallait équilibrer la balance des paiements. On n'a pas atteint les objectifs. On a démantelé le système de scolarisation. Et si bien que le capital infrastructurel et le capital humain et social requis pour le changement auquel les mondialistes prétendent, et ce n'est pas constitué dans nos pays. Alors nous pensons que c'est vraiment... Et se moquer du tiers-monde que de nous dire que c'est la mondialisation, il faut faire avec. Mais moi, je n'ai pas l'impression que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est, après tout, c'est des hommes qui ont décrété, c'est des hommes qui doivent pouvoir changer. Alors il ne faut pas qu'on nous donne l'impression qu'il y a une forme de fatalité et qu'on n'y peut rien, il faut faire avec. Mais cela est parce que et du haut de leur fortune, la fortune d'un Soros qui s'est entretenu hier avec nous et correspond au PIB de combien de pays africains. Ils veulent donner des leçons de démocratie. Mais où est la démocratie lorsqu'une poignée d'institutions et de gens extrêmement puissants, extrêmement riches, du haut de Davos, veulent dicter au reste de la planète comment il faut faire? C'est ça, c'est cela que nous ne voulons plus. Moi, je pense que pour ce qui est de mon continent, l'Afrique est dans un état de déliquescence totale aujourd'hui. Et non pas seulement parce que nous avons eu des mauvais dirigeants, mais aussi parce que nous avons affaire à des acteurs et invisibles et qui se mettent hors de cause, qui se dédouanent constamment, alors que c'est les ponctions qui sont opérées sur nos ressources, les ressources du sol et du sous-sol africain, sont à l'origine de tous les malheurs de ce continent. Quoi faire ? Moi, je pense que, s'agissant de l'Afrique et comme du reste du tiers-monde, et d'abord, notre droit de regard sur notre propre destinée, qu'ils arrêtent de décider pour nous. Et qu'ils arrêtent de saboter nos économies, nos efforts de démocratisation, et en prenant en otage les gens que nous portons au pouvoir. Aujourd'hui, si vous voyez que la plupart des dirigeants africains ne se soucient guère du point de vue de leurs concitoyens, mais précisément parce qu'il leur importe plus d'être écoutés, jugés par Bruxelles et Washington, que d'être écoutés par leurs propres concitoyens. Alors, moi, l'Europe en construction, dans le cadre de l'accord de Cotonou, on en parle de nouveaux acteurs, de société civile, de citoyenneté. Mais c'est l'Europe elle-même qui a dévié d'abord du projet qu'elle s'était donné, qui était de construire une Europe différente, certainement économique, politique et sociale, et par ricochet de transformer la coopération de telle sorte que les choses puissent aller dans le sens des intérêts des citoyens. Mais dans le même temps, cette Europe cautionne, ou en tout cas épouse, les points de vue de l'OMC. Les citoyens européens payent pour ça. Et à plus forte raison, nous qui sommes des éternels mendiants. Donc moi, je me suis dit qu'il faut que les pays riches soient conséquents. Ils ne veulent pas de nous chez eux. Ils ne veulent pas augmenter l'aide publique au développement. Ils ne veulent pas annuler la dette. Et pourtant, ils veulent qu'on se mondialise. C'est aberrant, non? Alors moi, nous, on se dit aujourd'hui que c'est une chance extraordinaire pour l'Afrique. Que... Et au moment où nous sommes arrivés avec un encours de la dette extérieure qui autorise ces gens à donner constamment des leçons quant à ce que nous devons faire, qu'il y ait une telle fracture sociale dans le Nord qui fait aujourd'hui que nous avons la chance de nous faire entendre. On s'est trouvé de nouveaux alliés. Et je pense que ce mouvement social qui émerge va susciter beaucoup de bienfaits, certainement pour tout le monde, et plus particulièrement pour l'Afrique. L'opposition, ce n'est pas seulement l'opposition au sein de partis politiques et locaux. Moi, je crois que les opposants africains doivent se poser les bonnes questions, savoir qu'en même temps qu'ils remettent en question les choix, les pratiques de ceux qui sont au pouvoir, qui se posent la question de savoir, le jour où ils auront le pouvoir, est-ce qu'ils auront la latitude nécessaire pour essayer de réorienter les choses dans le sens des électeurs, en tout cas dans, et tenir leurs engagements. Alors moi, je crois que on a affaire à un double langage. Et c'est ça qu'il faut rappeler aux riches. C'est-à-dire qu'ils veulent, ils sont prêts à juger n'importe quel dictateur d'un petit pays. On l'accable, il n'écoute pas sa population, et les gens sont brusqués. Bon, lorsqu'on quitte ce registre et qu'on se situe au plan international, on constate qu'il y a des hommes, des institutions, et qui se sont octroyés le droit de décider pour l'ensemble de la planète. Et ces gens-là n'ont en face d'eux, ils n'ont aucun contre-pouvoir. Nous sommes aujourd'hui ce contre-pouvoir. Nous n'allons pas les laisser détruire la planète. Et on ne veut pas, il faut qu'ils cessent de jouer avec les mots. Quand on dit démocratie, ils disent démocratie. On dit citoyenneté, ils disent citoyenneté. Lutte contre la pauvreté, ils disent lutte contre la pauvreté. Mais les mots ne revêtent pas du tout les mêmes réalités. Mais eux, en qui continue de pervertir chaque mot. Il joue ainsi avec les destins de nombreux innocents, surtout en Afrique. Je refuse de croire que les guerres, les conflits armés qui sont en Afrique, qui ont cours en Afrique aujourd'hui, soient seulement le résultat de comportements de dictateurs. Et ils sont dictateurs, certes, mais on n'a rien, on n'a pas donné la chance à une masse critique d'Africains de mieux comprendre que le changement, ce n'est pas par les armes. Dans les pays développés, vous vous donnez les moyens de vous battre autrement. On organise des référendums pour les moindres changements. Vous croyez qu'on a organisé des référendums pour demander aux Africains si on voulait des programmes d'ajustement structurel ? Et j'accuse le FMI et la Banque mondiale d'être la cheville ouvrière de tout ce processus. Il y a le G7 derrière, mais il y a ces institutions qui se disent indispensables, mais qui sont à l'origine de la plupart des maux du continent africain. C'est un pas extrêmement important que si peu de temps, entre Seattle et maintenant, le mouvement a pris de l'ampleur. Et chaque réunion de ce type permet au reste du monde d'ouvrir grandement les yeux, de lire entre les lignes, de comprendre que les multinationales et les grandes puissances qui ont une mainmise sur les médias ne nous disent pas toujours la vérité. Et que l'enjeu aujourd'hui, ce n'est pas seulement parce qu'il y a des opposants à l'ordre mondial, mais qui est-ce qui ne voudrait pas d'un ordre mondial fraternel où il y a redistribution des richesses? Nous sommes. Et qui est-ce qui ne voudrait pas d'un ordre mondial où on permet à tout le monde, blanc, noir, jaune, et de circuler au même titre que les services, les biens et les capitaux? Mais les choses sont en train de faire de telle sorte que les capitaux circulent. On nous oblige à restructurer et à revoir nos codes d'investissement. Toutes les réformes qui sont faites le sont dans la perspective d'ouvrir nos pays à des prédateurs. Parce que c'est clair que des salaires de misère continuent à être payés aux Africains, l'environnement sera pollué et que ces gens, de toute façon, rapatrient leur fortune. Et nous n'aurons plus que nos yeux pour pleurer dans 15 ou 20 ans. Ça, c'est la responsabilité de la nouvelle génération d'Africains vis-à-vis de la situation, dans la situation actuelle et vis-à-vis des générations à venir. Et quelle que soit l'issue de ce processus, je crois que rien ne sera plus comme avant. C'est-à-dire que personne ne pourra plus continuer à nous berner en disant que la mondialisation, c'est la panacée, que tout sera prêt et qu'il y aura de la croissance et redistribution. C'est-à-dire que nous voulons, en tout cas en Afrique, nous voulons juger à la lumière du peu qu'on a vu. Ce qu'on a vu, après 30 ans d'ajustement structurel, c'est la souffrance humaine, la douleur et la violence. Ce que nous avons constaté après 10 ans d'efforts de démocratisation, c'est des guerres, rien que des guerres et rien qu'à cause des élections. Qu'est-ce que c'est que les élections ? De simples préalables à la démocratie. Et les transitions démocratiques sont dans l'impasse. Parce qu'on vote pour des hommes et des femmes qui n'ont pas de ressources, qui n'ont pas de choix. Le seul choix qu'ils ont, c'est de mettre en œuvre les réformes économiques qu'exige l'Europe, et la Banque mondiale et le FMI. Donc ils commencent d'abord par trahir leur peuple pour pouvoir avoir droit aux ressources. Alors moi, je pense que c'est ça qui est intenable. On ne peut plus continuer comme ça. Et les dirigeants africains ont tout intérêt à être vigilants, parce que c'est désormais suicidaire de suivre ces institutions-là. C'est-à-dire que l'Europe, quand nous disons l'Europe, pour nous par exemple, le pays francophone, il y a la Belgique, mais il y a surtout la France. Et vous avez entendu parler de la France-Afrique. Et c'est tout simplement, un autre aspect de ce pillage de l'Afrique. Moi, je me demande à l'heure du bilan comment n'eût été une certaine arrogance, comment l'Europe peut mal juger l'Afrique dans le contexte actuel. Il y a ce que nous savons, il y a aujourd'hui les faits qui sont établis, Dieu merci. Nous sommes entrés dans une phase de l'histoire où tout se sait. Alors comment vous pensez, et bien sûr, et c'est pour ça que nous disons que nous ne parvenons même pas à nous débarrasser de mauvais dirigeants. Il suffit que ces dirigeants fassent plaisir et aux puissances occidentales et pour être présentés comme de bons élèves et pour qu'on les aide à se maintenir au pouvoir dans l'intérêt des multinationales, de vos multinationales. Une mainmise sur tous les secteurs, l'eau, l'électricité, c'est-à-dire les droits les plus élémentaires des populations africaines, le droit à une eau potable, tout doit se payer. Hein, et le coût réel. Parce que ce n'est pas ceux qui vont venir n'ont pas d'état d'âme. Ils investissent, il faut qu'ils fassent du profit. Donc, et figurez-vous que la plupart des infrastructures qui ont été mises en place, et dont la mise en place a participé à grossir l'encours de la dette, on n'a pas fini de négocier l'annulation de la dette. On nous dit, vendez tout ça, parce que vous ne pouvez rien en faire. Nous, on a les gens qu'il vous faut pour les gérer. Le rôle des ONG, les rapports de force sont trop déséquilibrés. On ne peut pas demander à des ONG de changer cette situation. Tout ce que les ONG peuvent faire, c'est de refuser de faire du colmatage de brèches. J'appelle colmatage de brèches lorsqu'on a mis en œuvre des mesures économiques douloureuses et on fait du saupoudrage en donnant de l'argent à quelques ONG du Nord et du Sud qui se battent d'ailleurs entre elles pour avoir accès à ces ressources-là. Et puis on va faire un puits par là, un hôpital par là. On croit qu'on a aidé l'Afrique. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est un changement beaucoup plus radical. Annuler la dette. Laisser, et ne pas nous dire que si vous annulez, on va emprunter encore et que ça va être mal géré. Laisser aux Africains le soin de donner un contenu à la saine gestion. Ce n'est pas à l'Occident et de venir nous dire, faire jouer aux gendarmes en disant que non, si on annule, ils vont dilapider encore. Si on a dilapidé, c'est avec leur bénédiction. Si on a dilapidé, parce qu'au moment où on donne un financement, la corruption est déjà là. Puisque celui qui donne sait avec quelle entreprise vous allez acheter. Puisque l'entreprise sait comment corrompre. Et aujourd'hui, on nous dit vous êtes corrompu. Mais qui a installé les systèmes de corruption à travers le financement du développement? Et qui paye aujourd'hui? C'est des petits-enfants, des innocents. C'est des femmes en milieu rural. C'est des jeunes gens qui ont fini leurs études, qui ne demandent qu'à travailler. Ce sont ceux-là qui payent aujourd'hui pour des erreurs commises par des technocrates et des financiers et qui, sans état d'âme, nous disent encore à la même population victime d'aller voter.